puisque je vous répète que je ne m'en souviens pas.
Je ne vous crois pas. Vous auriez pu oublier tous les autres, mais pas celui-là.
Qu'a-t-il donc de si extraordinaire?
Vous le savez bien?
Non! Je suis un génie qui s'ignore.
Laissez-moi rire.
Enfin, si ce roman était si fabuleux, on m'en aurait déjà parlé. Or, on ne m'a jamais parlé de celui-là. Quand il est question de mon œuvre, on cite toujours les quatre mêmes bouquins.
Vous savez très bien que ça ne veut rien dire.
Oh, je vois. Mademoiselle est une snob de salon. Vous êtes du style à vous exclamer « Cher ami, connaissez-vous Proust ?» Mais non, pas la recherche, ne soyez pas vulgaire. Je vous parle de son article paru en 1904 dans Le Figaro.
Admettons, je suis snob. Le titre manquant, s'il vous plaît?
Hélas, il ne me plaît pas.
Voilà qui confirme mes présomptions.
Vos présomptions. Voyez-vous ça?
Bien. Puisque vous refusez de coopérer, il va falloir que je recommence mon énumération. Je ne me souviens plus où j'en étais.
Vous n'avez aucun besoin de répéter votre litanie. Vous connaissez ce titre manquant.
Hélas, je crains de l'avoir oublié à nouveau. Apologétique de la dyspepsie 1.
Encore un mot, et je vous étrangle, tout impotent que je suis.
Étrangler. Le choix de ce verbe me paraît révélateur.
Vous préféreriez que je vous fasse le coup du lapin?
Cette fois, cher monsieur, vous ne parviendrez pas à éviter le sujet. Parlez-moi donc de la strangulation.
Quoi? J'ai écrit un bouquin qui s'appelait comme ça?
Pas exactement.
Écoutez, vous devenez horripilante avec vos devinettes. Dites-moi ce titre et qu'on en finisse.
Je ne suis pas pressée d'en finir. Je m'amuse beaucoup.
Vous êtes bien la seule.
La situation est d'autant plus plaisante. Mais ne nous égarons pas. Parlez-moi de la strangulation, cher monsieur.
Je n'ai rien à dire à ce sujet.
Ah non? Pourquoi m'en menaciez-vous alors?
Je disais ça comme ça. Enfin, comme j'aurais dit, allez vous faire cuire un œuf!
Oui. Et pourtant, comme par hasard, vous avez préféré me menacer de strangulation. Étrange.
Où voulez-vous en venir? Vous êtes peut-être une maniaque des lapsus freudiens? Il ne manquait plus que ça.
Je ne crois pas aux lapsus freudiens. Depuis une minute, je commence à y croire.
Je ne croyais pas à l'efficacité de la torture verbale. Depuis plusieurs minutes, je commence à y croire.
Vous me flattez. Mais jouons carte sur table, voulez-vous? J'ai tout mon temps. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas exhumé le titre manquant de votre mémoire, aussi longtemps que vous n'aurez pas parlé de la strangulation, je ne vous lâcherai pas.
Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un vieillard impotent, obèse, démuni et malade?
Je ne sais pas ce que c'est que la honte.
Encore une vertu que vos professeurs oublient de vous inculquer.
Monsieur Tache, vous non plus, vous ne savez pas ce que c'est que la honte.
Normal ? Je n'ai aucune raison d'avoir honte.
N'aviez-vous pas dit que vos livres étaient nocifs ?
Précisément. J'aurais honte de ne pas avoir nuit à l'humanité.
En l'occurrence, ce n'est pas l'humanité qui m'intéresse.
Vous avez raison. L'humanité n'est pas intéressante.
Les individus sont intéressants, n'est-ce pas?
En effet, ils sont si rares.
Parlez-moi d'un individu que vous avez connu.
Eh bien, Céline, par exemple...
Ah non, pas Céline.
Comment? Il n'est pas assez intéressant pour mademoiselle?
Parlez-moi d'un individu que vous avez connu en chair et en os, avec lequel vous avez vécu, parlé, etc.
L'infirmière?
Non, pas l'infirmière. Allons, vous savez où je veux en venir. Vous le savez très bien.
Je n'en ai aucune idée, emmerdeuse.
Je vais vous raconter une petite histoire qui aidera peut-être votre cerveau sénile à retrouver ses souvenirs.
C'est ça. Puisque je vais être dispensé de parler pendant quelque temps, je demande la permission de prendre des caramels. J'en ai bien besoin, avec les tourments que vous me faites endurer.
Permission accordée. Le romancier mit en bouche un gros caramel carré. Mon histoire commence par une découverte étonnante. Les journalistes sont des êtres dénués de scrupules, vous le savez. J'ai donc fouillé votre passé sans vous consulter, puisque vous me l'auriez interdit. Je vous vois sourire, et je sais ce que vous pensez. Que vous n'avez laissé aucune trace de vous, que vous êtes le dernier représentant de votre famille, que vous n'avez jamais eu d'amis, bref. Que rien ne pourrait me renseigner sur votre passé. Erreur, cher monsieur. Il faut se méfier des témoins sournois. Il faut se méfier des lieux où l'on a vécu. Il parle. Je vous vois rire à nouveau. Oui, le château de votre enfance a brûlé il y a 65 ans. Étrange incendie d'ailleurs, jamais expliqué.
Comment avez-vous entendu parler du château ?
Demanda l'obèse d'une voix lénifiante, engluée de caramel. Ça, ce fut très facile. Des recherches élémentaires dans les registres, les archives, nous sommes bien placés, nous autres journalistes. Voyez-vous, monsieur Tache, je n'ai pas attendu le 10 janvier pour m'intéresser à vous. Ça fait des années que je me suis penchée sur votre cas.
Comme vous êtes industrieuse! Vous aviez pensé, le vieux n'en a plus pour longtemps, soyons prêtes pour le jour de sa mort, n'est-ce pas?
Cessez de parler en mâchant ce caramel, c'est dégoûtant. Je reprends mon récit. Mes recherches furent longues et hasardeuses, mais pas difficiles. J'ai fini par retrouver trace des derniers Tache connus au bataillon. On signale en 1909 le décès de Casimir et Célestine Tache, morts noyés par la marée du Mont-Saint-Michel, où le jeune couple s'était rendu en voyage. Mariés depuis 2 ans, ils laissaient un enfant de 1 an. Je vous laisse deviner qui. En apprenant la mort tragique de leur fils unique, les parents de Casimir Tache meurent de chagrin. Il ne reste plus qu'un seul Tache, le petit Prétexta. Là, il m'a été plus difficile de suivre votre parcours. J'ai eu l'idée lumineuse de chercher le nom de jeune fille de votre mère, et j'ai appris que si votre père descendait d'une obscure famille, Célestine, elle, était née marquise de Planès de Saint-Sulpice, branche aujourd'hui éteinte, à ne pas confondre avec les comtes et comtesses de Planèse.
Vous avez l'intention de me faire l'historique d'une famille qui n'est pas la mienne?
Vous avez raison. Je m'égare. Revenons-en aux Planèse de Saint-Sulpice, une lignée déjà fort clairsemée en 1909, mais au quartier de noblesse écrasant. Apprenant le décès de leur fille, le marquis et la marquise décident de prendre en charge leur petit-fils, désormais orphelin. Et c'est ainsi que vous établissez au château de Saint-Sulpice à l'âge de 1 an. Vous y êtes choyé, non seulement par votre nourrice et vos grands-parents, mais aussi par votre oncle et votre tante, Cyprien et Cosima de Planèse, frères et belles-sœurs de votre mère.
Ces détails généalogiques sont d'un intérêt à couper le souffle.
N'est-ce pas? Et que direz-vous de la suite?
Comment? Ce n'est pas encore fini?
Certainement pas. Vous n'avez pas 2 ans, et je tiens à raconter votre vie jusqu'à vos 18 ans.
Ça promet.
Si vous l'aviez raconté vous-même, je n'aurais pas à le faire.
Et si je n'avais pas envie d'en parler, hein?
C'était donc que vous aviez quelque chose à cacher.
Pas forcément.
Il est trop tôt pour aborder cette question-là. Entre-temps, vous êtes un bébé adoré par sa famille, malgré la mésalliance de votre mère. J'ai vu des croquis du château aujourd'hui disparus. C'était une splendeur. Quelle enfance de rêve vous avez dû avoir.
Votre canard, c'est point de vue image?
Vous avez 2 ans quand votre oncle et votre tante donnent le jour à leur unique enfant, Léopoldine de Planès de Saint-Sulpice.
Ça vous fait baver, un nom pareil, hein? C'est pas vous qui pourriez vous appeler comme ça?
Oui, mais moi, au moins, Je suis en vie.
Ça vous fait une belle jambe.
Dois-je continuer ou voulez-vous que je vous laisse la parole? Votre mémoire doit être ressuscitée à présent.
Poursuivez, je vous en prie. Je m'amuse follement.
Tant mieux, parce que c'est encore loin d'être fini. Ainsi donc, on vous procure la seule chose qui vous manquait. Une compagnie de votre âge. Vous ne connaîtrez jamais les journées moroses des enfants uniques et sans amis. Certes, vous n'irez jamais à l'école. Vous n'aurez jamais de camarades de classe, mais vous avez désormais beaucoup mieux. Une petite cousine adorable. Vous devenez inséparable. Dois-je vous préciser le document qui m'a fourni ce genre de détails?
Votre imagination, je suppose.
Partiellement. Mais l'imagination a besoin de combustible, monsieur Tash. Et ce combustible, c'est à vous que je le dois.
Cessez de vous interrompre continuellement et racontez-moi mon enfance. J'en ai les larmes aux yeux.
Raillez, cher monsieur. Il y aurait de quoi avoir les larmes aux yeux. Vous avez eu une enfance bien trop belle. Vous aviez tout ce que l'on peut rêver et plus encore. Un château. Un vaste domaine avec des lacs et des forêts. Des chevaux. Une formidable aisance matérielle, une famille adoptive qui vous choyait, un précepteur peu autoritaire et souvent malade, des domestiques aimants, et surtout, vous aviez Léopoldine.
Dites-moi la vérité, vous n'êtes pas journaliste. Vous cherchez de la documentation pour écrire un roman à l'eau de rose.
À l'eau de rose? C'est ce que nous verrons. Je reprends mon récit. Bien sûr, en 14, il y a la guerre. Mais les enfants s'accommodent des guerres, surtout les gosses de riches. Du fond de votre paradis, ce conflit vous paraît dérisoire et n'entrave nullement le cours long et lent de votre bonheur.
Ma chère, vous êtes une conteuse hors pair.
Moins que vous.
Poursuivez.
Les années s'écoulent à peine. L'enfance est une aventure si peu rapide. Qu'est-ce qu'un an pour un adulte? Pour un gosse, un an est un siècle. Et pour vous, ces siècles étaient d'or et d'argent. Les avocats invoquent une enfance malheureuse comme circonstance atténuante. En sondant votre passé, je me suis rendu compte qu'une enfance trop heureuse pouvait elle aussi servir de circonstance atténuante.
Pourquoi cherchez-vous à me faire bénéficier de circonstances atténuantes? Je n'en ai aucun besoin.
Nous verrons. Léopoldine et vous n'êtes jamais séparés. Vous ne pourriez vivre l'un sans l'autre.
Cousin, cousine, c'est vieux comme le monde.
À un pareil degré d'intimité, peut-on encore parler de cousin, cousine?
Frère et sœur, si vous préférez.
Frères et sœurs incestueux, alors?
Ça vous choque! Ça s'est vu dans les meilleures familles! À preuve!
Je crois que c'est à vous de raconter la suite.
Je n'en ferai rien.
Vous voulez vraiment que je continue?
Vous m'obligeriez.
Je ne demande qu'à vous obliger. Mais si je poursuivais mon récit au stade où j'en suis arrivée, ce ne serait qu'une pâle et médiocre paraphrase du plus beau, du plus insolite et du moins connu de vos romans.
J'adore les paraphrases pâles et médiocres.
Tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu. Au fait, me donnez-vous raison?
À quel sujet?
D'avoir classé ce roman dans vos œuvres à deux personnages féminins, et non à trois personnages féminins.
Je vous donne absolument raison, chère.
En ce cas, je n'ai plus peur de rien. Le reste est littérature, n'est-ce pas?
Le reste n'est effectivement que mon œuvre. À cette époque-là, je n'avais d'autre papier que ma vie, ni d'autre encre que mon sang.
Ou celui des autres.
Elle n'était pas une autre.
Qui était-elle donc?
C'est ce que je n'ai jamais su. Mais elle n'était pas une autre. Ceci est certain. J'attends toujours votre paraphrase, très cher.